Oui, bonsoir. Je rentre du boulot assez fatigué et tout. Bon, j'allais me préparer une petite soirée peinard. Je fais une petite soupe et tout. J'allume la télé. Information régionale, Carcilote, là. Et puis, qu'est-ce que je vois? Eh ben, dans Figeac, eh ben, on a arrêté des sans-papiers, des gens que plus ou moins mon gamin allait à l'école avec leur gamin. Voilà, on les arrêtait en pleine rue, quoi. Et putain, mais merde, je rentre le soir crevé, je peux avoir la paix, quoi, et voir des choses comme ça. Moi, ça me tue la soirée, voilà. Voilà, ça me tue, quoi. Voilà, c'est comme ça. Putain, salut.
Oui, bonjour, tu es jeune, au chômage ou RMI, tu veux décupler ton pouvoir d'achat? J'ai la solution, deviens délateur professionnel. Jusqu'à 500 euros pour un simple émeutier, 1500 euros pour un émeutier muni d'un fusil. Dénonce ton voisin et deviens la première fortune de ton quartier. Allez, ciao, à plus, à bon entendeur, salut.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Appel contre la franchise.org. Il est toujours temps de signer la pétition contre la franchise dite médicale de Sarkozy. Voilà, c'était Patrick du SMG Sympathique, Modeste et Génial, mais plus sérieusement, du syndicat de la médecine générale et de la revue Pratique. Ciao, bye.
Salut Daniel, et ben voilà, Sarko, il va résoudre le problème du pouvoir d'achat des ménages. Alors, si vous voulez gagner de l'argent, vous appelez la police et vous faites de la délation. Vous dénoncez les jeunes qui ont tiré sur les policiers à Villers-le-Bel. Et vous aurez des petits sous pour Noël, pour acheter des cadeaux. Voilà, plus de problème de pouvoir d'achat. Alors, après les rafles, on a les dénonciations. Tout va bien. Et en parlant de Villers-le-Bel, je voudrais savoir si les deux jeunes victimes de cet accident de la circulation, apparemment qui est toujours un accident de la circulation, ont été enterrés au Sénégal et au Maroc. Et je voudrais savoir s'ils rentraient dans les quotas d'expulsés étrangers de Monsieur Brice Hortefeux. C'est peut-être une nouvelle méthode de renvoyer les cercueils à l'étranger. Voilà. Et ben, jusqu'où va-t-on supporter ça en France? Je me le demande. Bonne journée. Au revoir.
En Argentine, il y a eu 40 000 disparus. Qui a instruit nos militaires à la torture et à la disparition physique des opposants? Mais c'est vous, messieurs les Français, avec les sinistres Poniatowski protégés par Giscard. C'était la bataille d'Alger. Art a fait toute une mission d'honneur. Pouvez-vous le rappeler? Merci. C'était Marco de Liège.
C'est Daniel, je te félicite pour ton émission parce que tu mets bien en perspective le phénomène colombien, ce qui s'y passe, les exactions du pouvoir, de l'armée, des paramilitaires qui y sont liés. Et tu montres bien qu'en fait, dans les guerres civiles, on l'a vu ça au Pérou, durant les années du Sentier Lumineux, ce sont toujours les paysans qui trinquent. Comment dire, tu as bien insisté sur le phénomène de dissolution des AUC, notamment de la justice, et en fait, par un tour de passe-passe, il est en train d'amnistier tous ces groupes paramilitaires qui ont commis des atrocités dont personne n'a jamais parlé. Et le régime colombien se fiche bien de la tête du monde entier à ce niveau-là. Les intellos, les chanteurs de gauche se mobilisaient pour Bettencourt. Je les ai pas beaucoup entendu parler de ces problèmes-là. Des problèmes qui sont connus depuis des années, notamment, je pense à ce bouquin que j'ai sous les yeux, celui de René Dumont et de Motin, Le mal développement en Amérique latine, paru au Seuil en 81. Et qui montrait justement à travers des pseudo-réformes agraires ou des tentatives de réformes agraires, justement l'opposition des grands propriétaires manipulés par Washington, bien sûr. Tu vois un peu les FARC réduites à se protéger derrière Bettencourt. Mais qu'est-ce qu'elle espérait, Madame Bettencourt? Moi, je crois qu'encore, il vaut mieux qu'elle soit prisonnière des FARC qu'assassinée par les sbires de l'AUC. Et je dois dire à tes auditeurs, justement, justement que dans les années 90, les FARC ont essayé de politiser leur mouvement, notamment à travers l'UP, et leurs candidats ont été assassinés pendant les présidentielles. Ce qui s'est passé en Colombie en 90, le fait de la counter-insurgency, qui vient de l'anglais, le CIA, Washington, la preuve que les officiers de l'armée colombienne ont été formés par justement l'armée américaine, ou plutôt les officines américaines dans le plus grand secret de la CIA, ces gens-là justement démissionnent maintenant de l'armée colombienne pour aller aussi à leur service en Irak et servir de contractors, c'est-à-dire de personnel des boîtes de mercenaires. Donc on voit bien justement la collusion entre les officines américaines qui ont formé ces officiers à la counterinsurgency et justement... Par leurs relations, ces gens-là se retrouvent maintenant en Irak pour continuer à faire leur sale boulot et à se faire bien payer. Voilà encore une preuve formelle des agissements de Washington dans ces pays-là. Et tu as souligné le rôle de la United Food Corporation, ce rôle de pourri qui a la United qui a officié en 54 pour faire renverser Arbenz au Guatemala. Elle opère sur l'Amérique latine depuis le 19e siècle. Tout ça, ce n'est pas nouveau. Je suis surpris que les intellectuels n'en parlent jamais. Merci pour tes reportages. C'est super. Continue. Ciao.
Merci pour vos commentaires et vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Je ne sais pas si Ingrid de Bettencourt préfère être avec les FARC qu'avec les AUC, et bien sûr qu'entre les deux sans doute, mais enfin je ne pense pas qu'elle soit heureuse du tout avec dans la situation dans laquelle elle est. Mais tout ce qui est dit là, oui c'est ça, bon, ben, reste à développer et à montrer toute cette... effectivement, ce que vient de dire cette auditeur, c'est à peu près ce que nous avons rencontré, conclu et qu'on va continuer aujourd'hui de vivre ensemble, amis auditeurs. Un auditeur parle des 40 000 disparus d'Argentine. Effectivement, ce à quoi il fait allusion, c'est un film réalisé par Marie-Monique Robin qui a été diffusé sur Arte le 8 septembre 2004, que vous pouvez peut-être retrouver, et qui effectivement raconte comment expérimenter en Algérie la guerre subversive. La guerre subversive fut ensuite enseignée au monde entier, du Vietnam à l'Argentine, en passant par le Chili. On a exporté cette école française, entre guillemets, et ces méthodes qui firent des milliers de victimes. C'était un documentaire tout à fait étonnant, avec des témoignages d'officiers français de tout premier rang qui confirmaient effectivement cette exportation du savoir-faire militaire français. Et puis, vous avez peut-être remarqué ce drame à Mayotte, dans une collision entre une vedette de la police de l'air et des frontières et une embarcation qu'on appelle Kwasa Kwasa, qui a fait 2 morts et 8 disparus. Et c'est des drames quotidiens qui se reproduisent très souvent, presque chaque jour, des embarcations de fortune, c'est quoi ça quitte les îles, les pauvres îles comoriennes pour essayer d'aller à Mayotte vivre mieux. Et on a raconté ces drames et ces histoires-là dans une série d'émissions sur Mayotte qui s'appelait Mayotte, un confetti explosif. Et vous pouvez sur le site laba.org retrouver ces 3 émissions des 11, 12 et 16 janvier 2006. 11, 12 et 16 janvier 2006. Qui raconte ce que nous déplorons aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est évidemment que les passeurs sont des racailles, ça c'est clair et net. On avait fait le portrait, j'ai bonne mémoire d'un passeur, mais c'est avant tout évidemment la misère qui sévit sur les îles comoriennes qui fait que les Comoriens fuient cette misère et cette pauvreté pour essayer d'aller vivre mieux chez leurs frères maorais. Il faut rappeler que l'Assemblée générale des Nations unies a de nombreuses fois condamné la présence française à Mayotte. C'est une page de l'histoire qu'on connaît assez peu, qu'on passe un peu sous le tapis ici en France. Mais en tous les cas, avant de condamner les passeurs et de déplorer d'avoir des larmes de crocodile sur ces drames-là, il faut un petit peu faire un peu d'histoire. 11, 12 et 16 janvier 2006, en tout cas, là-bas, si j'y suis, avait donné des reportages sur ce petit endroit du monde que sont les Comores. Et nombreux sont les Comoriens, vous le savez, qui vivent en France, ayant fui la pauvreté de leurs îles, et qui font vivre, par les envois qu'ils font, leur famille restée là-bas. Donc aujourd'hui, on est en Colombie, on continue cette marche avec les habitants de cette communauté de paix, cette commune, on pourrait presque dire commune libre, de San José de Apartado, dans le nord-ouest de la Colombie. Ces paysans, cette communauté de paysans, coincés entre deux feux, la guérilla d'un côté et les paramilitaires et l'armée de l'autre, et qui essayent et qui résistent face à ces deux forces qui, depuis tant d'années, déchirent ce pays. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Philippe, porte-parole de la PES. Je vous appelle un petit peu comme chaque année pour vous annoncer qu'il y a samedi la 5e édition, maintenant malheureusement, de la manifestation contre le chômage et la précarité pour la justice sociale. Donc samedi 8, 14h, République. Et je pense que chacun doit y être, pas seulement les chômeurs, parce que comme on est en face d'une logique impitoyable, aujourd'hui on s'attaque aux plus fragiles, aux plus précaires, aux plus pauvres, et finalement si on n'est pas solidaire de ceux qui sont les plus victimes du système qu'on combat ou qu'on dit combattre, peu seront épargnés au bout du compte. Alors, les emplois du temps sont serrés, il y a Noël qui approche, enfin... Mais vraiment, je pense que c'est important qu'on se retrouve à plusieurs milliers pour dire que chômeur, c'est pas une situation, que précaire, c'est pas une situation, que pauvre, c'est pas une situation, et qu'il y a les moyens dans ce pays de faire autrement, qu'il s'agit de choix politiques. Donc je vous invite tous à venir avec la PES et avec les autres organisations de chômeurs manifester à 14h à République, samedi 8 décembre, contre le chômage et la précarité. Salut à tous, et j'espère à samedi. Au revoir.
Bonjour à tout le monde, c'est Françoise et le Café Repère de Nogent-sur-Marne qui vous rappelle le prochain, le 7 décembre, toujours au Bédonia, toujours au 61 bis rue des Héros Nogentais et toujours à partir de 20h30. On se disait qu'on pourrait peut-être causer de la belle phrase « travailler plus pour gagner plus ». Quand on vous envoie ça dans la figure, qu'est-ce que vous répondez? Quels sont vos arguments? Qu'on se les échange un peu. Il y a toujours des tas de trucs auxquels on pense pas avec sa petite tête à soi. Je me demandais aussi si on pouvait pas essayer de causer des sans-papiers du coin, Nogent, Le Perreux. J'entends rien, moi, au niveau des sans-papiers à Nogent, Le Perreux. J'imagine qu'on n'en a pas. Tout doit bien se passer chez nous, voilà. Et puis, je voulais inviter chacun à venir avec ses journaux, avec ses magazines, avec ses bouquins, tout ce dont il aurait envie de parler, ce qu'il aurait envie de nous dire. J'ai lu ça, c'est super, voilà. Toutes ces petites choses-là pour alimenter la soirée. Voilà, donc on vous attend bien nombreux. Et haut les cœurs.
Habitants de la région de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous au repère de Monchy-Breton au café chez Tartousse et compagnie ce jeudi à 18h30. Venez nombreux et on vous attend.
Hier, quand les députés de l'UMP ont voté la loi qui légalise la ponction de 58 euros, soit la moitié de la somme de la redevance payée par les petits vieux, ils ont quand même dû se poser la question de savoir s'ils ne se comportaient pas comme les jeunes de banlieue qui arrachent les sacs des petites vieilles. Jeunes qui n'hésitent pas à foutre en tôle. Surtout quand on sait que cet argent va aider à payer les 11 milliards que ce gouvernement va accorder aux nantis. Marie-Paul de Villejuif. Au revoir.
Oh, ah oui.
Il va falloir qu'on connaisse la vérité. Et comment on peut expliquer qu'il y a 40 sénateurs des groupes de Uribe en prison?
Vamos todos adelante con cariño y mucho amor.
Pues a ver, aquí en esta zona y en el país, hoy estamos en una consolidación de un proyecto de Estado paramilitar.
Ici, dans cette région, mais dans le pays, on est dans la consolidation d'un modèle paramilitaire. Ici,
ici, on tue tranquillement. Alors, j'ai très peur pour Ingrid ici.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla, mais pour attaquer une manière de penser, c'est-à-dire les sympathisants du communisme.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao et Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis en Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
Écoutez, écoutez, la base est suisse.
Flight number 2, arriving from New
Adelante,
adelante,
el mundo atrás.
Hey.
Vamos.
La manif avance, là on est entre, alors c'est parfait, on est entre des champs de bananiers avec les sables communautés de paix San José de Apartado, voilà devant. Caminata pour la vida et la mémoire de notre.
Marche pour la paix et pour la vie.
Grand drap peint, magnifique, les hommes. Grave, les femmes avec des fleurs, des bouquets de fleurs très belles.
No más asesinatos por los paramilitares, plus d'assassinats par les paramilitaires.
Comunidad de Paz San José, 182 assassinats.
Responsabilité voilà. De l'État.
Crime en totale impunité.
Voilà, tout le monde est là. Il y a évidemment le gars à cheval avec son sombrero. Des filles magnifiques, hein. Il y a des jeunes femmes magnifiques avec des fleurs, des gens des communautés indigènes. Des hommes qui ont juste fait un panneau.
Silencio, silence.
Silence. Des hommes qui ont juste fait un panneau, comme ça, en papier, sur eux. Et puis derrière, les bus qui suivent, avec la sono qui correspond à ce qui se passe. Entre les bananiers, nous marchons la longue marche de la communauté de San José d'Apartado. Et c'est parti, on est avec tous les habitants de cette communauté qui marche vers la ville d'Apartado avec, vous voyez, des fleurs portées par les enfants, par les femmes. D'autres sont à cheval, d'autres dans des cars, des bus, les plus âgés ou les petits qui ont du mal un peu à marcher. C'est pas forcément facile, c'est un chemin de terre, de boue, parce qu'il pleut beaucoup. Pourquoi cette marche? On l'a expliqué hier, parce que cette communauté qui essaye de résister, c'est embêtant, c'est le mot neutralité, évidemment, ces gens ne sont pas neutres. Au sens où la neutralité neutralise, au sens de l'indifférence. Non, ils refusent d'être pris en otage, soit par la guérilla, soit par les forces paramilitaires et militaires qui, on l'a compris, travaillent ensemble. Ils refusent ces deux chantages, ils refusent d'être otages des uns ou des autres. Et c'est très difficile en Colombie d'échapper à ces chantages et à être otage. Donc c'est une lutte qu'ils mènent et depuis une dizaine d'années, ça leur a valu que 182, 185 d'entre eux, parmi ces les leaders de, cette communauté paysanne, soient tués. Ils estiment que une vingtaine ont été abattus par la guérilla, par les FARC, et les autres par ces forces paramilitaires dont on parle beaucoup moins et qui sont beaucoup moins présentes dans les médias et dans l'idée que nous nous faisons ici de la Colombie, cette Colombie dont nous, vers laquelle tous les regards se portent depuis des années, puisque c'est là, dans la jungle, que pourrit, entre guillemets, Ingrid Betancourt. C'est là que nous marchons, sous ce ciel lourd, avec ses paysans, jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie.
Là-bas, c'est j'y suis. Écoutez, là-bas, c'est j'y suis.
Un desplazado más, un déplacé en plus, corrido prohibido.
Aquí me encuentro, yo no sé qué voy a hacer.
Je me retrouve ici et je ne sais pas ce que je vais faire. Dans cette école, à plat ventre comme un chien, en attendant de régler ma situation, ou en attendant la charité du gouvernement. Et quand je pense que là-bas j'avais tout, et maintenant je n'ai même plus où mourir tranquille, ma terre, mes amis et mes animaux, je les ai perdus à cause de la violence ici qu'on est en train de subir. Ça fait longtemps déjà que j'ai ce petit problème. Et aujourd'hui, ça me tourmente tellement que j'en deviens dingue. Je suis ici avec ma femme et mes enfants. Et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Là-bas sont arrivés des gens armés jusqu'aux dents. Et ils nous ont dit qu'il fallait qu'on déguerpisse. Si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Et celui qui ne le fait pas, il est déjà en train de perdre sa vie. Et comme moi, il y en a des milliers en Colombie. Et c'est de la faute de cette maudite guerre. Le paysan, lui, n'en est pas responsable. Les coupables sont ceux qui font la guerre. Et on nous appelle à les déplacer, expulsés de nos propres terres. Ce pays, plus personne ne peut le remettre sur pied. Et notre destin, c'est de vivre dans la misère.
Que nada se ha perdido, con un esfuerzo más llegaremos a la terminal.
12 kilomètres, on va faire 12 kilomètres jusqu'à la ville d'Apartado. On entendait la voix de Yolanda Peluccio, la mère d'Ingrid Betancourt, au début de Peluccio. La maman d'Ingrid Betancourt qui évoquait les problèmes du président Uribe. Et effectivement, il y a une quarantaine de membres élus du parti du président Uribe qui sont poursuivis, qui sont accusés. 16 des proches associés du président colombien Uribe, y compris son ami le chef des services secrets, sont emprisonné. C'est donc un énorme scandale que celui de la parapolitique actuellement en Colombie, et ça n'arrête pas et ça déballe tous les jours dans une presse qui est très favorable au président colombien. C'est dire si nos confrères journalistes et intellectuels, enfin intellectuels de télévision, on s'entend, qui ont fait de Chavez leur tête de turc et leur cible depuis tant d'années, eh bien, vont pouvoir, après la défaite de Chavez dans ce référendum, changer un petit peu d'angle et aller voir dans le pays voisin. Là, ils ont vraiment du grain à moudre et des histoires épouvantables à raconter. Histoires épouvantables à raconter, par exemple, celle, le sort des syndicalistes. en Colombie. 2000 syndicalistes ont été tués et plus de 180 autres ont été victimes de disparitions forcées en Colombie au cours des 20 dernières années. Le saviez-vous? Et 90% des cas, les responsables présumés n'ont pas été traduits en justice. C'est ce que dit le rapport d'Amnesty International du 3 juillet 2007. Alors on vous dira que, mais attendez, oui, mais le président Uribe a entrepris depuis quelques années une démobilisation de ces groupes paramilitaires soutenus par l'armée. Or, nombreux sont les observateurs et les Colombiens à comprendre et avoir compris que c'est assez bidon, cette histoire de démobilisation. Ça ressemble plus à une mascarade qu'à une véritable démobilisation. Alors, on est dans cette marche, donc c'est assez gai, bien sûr, mais en même temps, voilà, c'est pas rien. Ce dont il est question, c'est les quatre. On est en train de célébrer, de rendre hommage, quand même, à quatre paysans de ce groupe, de cette communauté, qui ont été tués dans le mois dernier. Donc on marche, et avec l'un d'eux qui s'appelle Wilson Gavi, nous avons des précisions sur ce qui se passe dans cette communauté. Wilson, alors toi tu as suivi toute l'histoire de cette communauté de paix?
Si, desde el año 97.
Oui, depuis 97.
Et là, vous avez eu des problèmes avec les autorités qui ont voulu vous imposer un commissariat de police à l'intérieur de la communauté.
Sí, ya eso fue, digamos, en el 2004, al remate del 2004, cuando se presentó, digamos, la propuesta del gobierno de poner un puesto de policía en San José.
Quand on a reçu la proposition du gouvernement d'installer un poste de police à San José.
Porque nosotros desde el primer punto, como principio, no estar con ningún actor armado.
Nous, comme principe, on a de n'être avec aucun des acteurs armés.
Y por tal motivo, digamos, no aceptamos de que en los lugares donde estemos nosotros haya presencia ni de guerrilla paramilitar ni de ejército.
Donc on accepte la présence ni de guerrilla ni de paramilitaires ni de la police.
Nosotros dijimos de que si eso no era otra propuesta diferente de la comunidad, entonces que nosotros nos desplazaríamos a otro lugar.
Nous, on les a prévenus que si ils changeaient pas d'avis, on se déplacerait ailleurs.
Pero eso, digamos, eso se juntó a la decisión del gobierno de mandar el puesto de policía, pero también la masacre del 2005.
Donc il y a eu d'une part le fait que le gouvernement veuille mettre un poste de police et aussi le massacre de 2005.
Y la acusación del presidente Uribe directamente contra la comunidad de señalarnos como guerrilleros de la FARC.
Et le fait que le président nous a directement accusé d'être membres sympathisants des FARC.
Tu étais là lors du massacre de 2005?
Sí, yo estaba en la comunidad aquí de San José.
J'étais à San José un peu plus haut.
Quel a été le bilan de ce massacre?
Le massacre fue que l'ejército entró en operativos.
Les militaires sont entrés en opération.
Junto con paramilitares.
En compagnie de paramilitaires.
Reconocidos en la zona.
Bien connus dans le secteur.
Y incursionaron, digamos, a los campesinos que estaban en los lugares y los mataron. En dos lugares ejecutaron la masacre.
Donc ils ont arrêté des paysans qui étaient sur leur terre et ils les ont exécutés sur place.
En un lugar mataron a Luis Eduardo Guerra. Leader de la comunidad de paz.
Ils ont tué notamment Luis Eduardo Guerra, qui était le leader de la communauté.
Con su hijo Deiner, de 10 años.
Avec son fils Weiner, qui n'avait que 10 ans.
Y con Deyanira Reyes, que era la esposa de él.
Et avec son épouse Deyanira Reyes. Mm.
En otro lugar mataron a otras 5 personas.
Dans un autre lieu, ils ont massacré 5 personnes.
Entre ellas una familia totalmente, esposa, hijos,
padre. Une famille complète, la femme, les enfants, le père.
Combien de victimes au total en 2005?
Fueron 8.
8.
Entonces esa masacre pues fue el ejército quien ejecutó la masacre, ¿no?
Ese masacre c'est les militaires qui l'ont.
El gobierno empezó a manejar por los medios de que era una masacre, digamos, hecha por la guerrilla.
Donc le gouvernement a dit que c'était un massacre qui avait été perpétré par la guerrilla.
Est-ce que les médias ont couvert ce massacre? Est-ce qu'il y a eu des reportages sur ce massacre?
Sí, en la prensa se manejó en los primeros días de que ha sido la guerrilla que ha sido la masacre.
La guerrilla que había masacrado.
Porque Luis Eduardo, digamos, se había pedido, o sea, decir, señalado a Luis Eduardo como guerrillero y de que iba a reinsertarse.
Como un miembro de la guerrilla.
Ah, ils ont dit que les victimes faisaient partie de la guerrilla.
Sí, exacto. Que las víctimas sí eran de la guerrilla.
Que les victimes, oui, faisaient partie de la guerrilla.
Había una vez un gato chiquitico. Un gato poquito. Aquí una lo trajo.
Ha habido más de 185 personas que han sido asesinadas.
Y hay 185 assassinats.
En 10 años.
En 10 años, oui.
Est-ce que ça continue aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez d'être menacé de cette façon?
Sí, totalmente, digamos, oui, sigue la zozobra de amenazas directamente
on subit y hechos. Les menaces.
Por ejemplo, hoy lo que vamos a realizar en esta caminata que vamos a hacer a Apartadó.
Alors aujourd'hui justement cette marche qu'on va faire jusqu'à Apartadó
es a recordar y hacer presencia en nombre de la comunidad y en nombre de las personas que han sido víctimas.
Au nom de la communauté.
De que esas personas que han muerto.
Que ces personnes qui sont mortes.
Que no queremos que esto se quede en la impunidad, sino que haya justicia.
Et on veut que cesse l'impunité et qu'il y ait une vraie justice.
Porque resulta que en estos momentos, en este momento que estamos el presidente que está
parce
en estos momentos.
En ce moment avec notre président.
Es el propio jefe paramilitar.
Lui c'est le propre chef des paramilitaires.
Que es el que entró en las negociaciones. Con los que hicieron todas las masacres en Colombia.
Avec ceux qui ont perpétré tous les massacres en Colombie.
Él da las órdenes.
Donc c'est lui qui donne les ordres.
Y por ello nosotros hemos intentado de que esta impunidad que está en la Comunidad de Paz de San José vaya a la Corte Penal Internacional.
Donc c'est pour ça que nous cette impunité qui règne autour des massacres de la communauté San José, on veut qu'elle aille à la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, à la CIDH.
A la CIDH. Porque siguen los hechos y la impunidad sigue reinando.
Parce que les faits, les exactions continuent et l'impunité aussi continue.
Ok, on continue.
Sur toute la ligne, il y a des
camions
qui commencent.
Vamos.
La marche commence.
Ciao. Vamos todos adelante. Con cariño y mucho amor. Con los suyos y los nuestros. Y toda la humanidad. Vamos todos adelante. Con cariño y mucho amor. Con los tuyos y los nuestros. Y toda la humanidad. Vamos todos campesinos para fortaleciendo la comunidad de paz.
Estamos recorriendo 12 kilómetros.
On est en train de parcourir 12 kilómetros.
Que separa Apartadó de la Comunidad de Paz.
Qui relie Apartadó de la Communauté de Paix San José.
Durante 10 años se buscó que esta carretera tuviera un arreglo para poder sacar los productos, cacao, maíz, frijol.
Pendant 10 ans, il y a eu un accord pour que cette route puisse être praticable pour pouvoir sortir les fruits, le cacao, etc.
Pero en estos 10 años ha servido para bases militares y paramilitares en el trayecto.
Mais depuis 10 ans, elle ne sert qu'aux paramilitaires et aux militaires pour leur déplacement.
Y en esta zona siguen todavía los grupos Las Águilas Negras.
Et dans cette zone continue à agir le groupe paramilitaire Les Aigles Noirs.
Elle sait de quoi elle parle, la petite dame là que vous entendez. Elle s'appelle Gloria Cuartas. Et je dis petite dame parce qu'elle n'est pas bien grande, mais elle compense par une énergie, une précision, une pugnacité tout à fait exemplaire et assez admirable. Et elle a été alcade, elle a été maire, mairesse si vous voulez, de la ville vers laquelle nous nous dirigeons, vers Apartadó. Donc elle sait très très bien de quoi elle parle. Pour situer un peu les choses, il faut rappeler quand même, pour ce qui concerne la Colombie, toujours pour ceux qui sont si sévères et si féroce avec ce qui se passe au Venezuela voisin, il faut rappeler qu'en Colombie, à peine 2% des propriétaires possèdent 80% des terres. Les paysans avec qui on se balade, ce n'est pas des paysans de fantaisie. Ce n'est pas des paysans qui vendent un petit fromage de chèvre bio sur le marché. C'est des vrais paysans qui vivent vraiment de la terre. C'est vraiment leur ressource. Ce n'est pas seulement leur culture. C'est leur ressource. C'est une histoire de vie. Or, les paramilitaires dont parle Gloria, qui ont mobilisé complètement la piste et la route sur laquelle on marche, expulsent, exproprient régulièrement ces paysans. C'était la chanson qu'on entendait au début, traduite par Antoine. Ils exproprient ces paysans, si bien que, notamment les paysans de la côte pacifique, très souvent des communautés indigènes, ou les afro-colombiens dont on parlera, et aujourd'hui 4 à 6 millions d'hectares appartiennent désormais aux paramilitaires. C'est-à-dire qu'ils ont exproprié ces paysans Ils se sont appropriés, les paramilitaires se sont appropriés ces terres. Et pourquoi faire ? Eh bien, pour étendre les plantations de palmiers à huile. Nous y voilà, les agrocarburants qui, comme vous le savez, sont l'avenir radieux de nos automobiles pour, dans le cadre, évidemment, du remplacement du pétrole qui s'épuise ou qui est très cher. Alors, on va augmenter les agrocarburants. C'est le projet du président Uribe qui veut faire de la Colombie le premier producteur mondial d'agrocarburant. On va revenir là-dessus, on en parlera, on pourrait très bien découvrir par exemple que ce projet est un moyen de blanchir, parce que c'est quand même la Colombie, c'est un petit peu le narcotrafic, etc. On en reparlera. Mais il faut quand même ne pas oublier ça, et donc ces déplacements font qu'il y a entre 3 et 4 millions de déplacés à travers la Colombie, ces paysans chassés de leurs terres, et 64% de la population, encore une précision, vit en dessous du seuil de pauvreté. On continue la marche.
Qu'est-ce
que vous voulez ?
Comment se llama usted ?
Ana María.
Ana María.
Et vous vivez à la communauté de Ana María ?
Oui.
Si. Oui.
Ah, que me mataron mes dos hijos.
Parce qu'on m'a tué mes deux enfants. Ça fait quelques années déjà.
Et qui les a tués? Et pourquoi?
Non, c'est.
Je sais pas.
Non, c'est yo. Yo no vi.
Moi, je sais pas, j'ai pas vu.
Et on vous a raconté?
Pero, hey. C'est comme un tonneau. Quel fouet? Oui. Oui, oui, oui.
C'est dangereux de le dire, c'est ça?
Ah.
Je voulais pas dire qui c'est, quoi. C'est des gars avec des uniformes, mais on peut pas dire leur nom, quoi.
Dégale tranquille,
dégale tranquille. Et là, il y a d'un côté qui dit, vas-y, tu peux le dire tranquille, n'aie pas peur. Dis-lui qui les a tués, dit la dame à côté.
On le sait.
On le sait.
Del Monte.
Hein?
Del Monte.
Carlos Del Monte.
Dos.
C'était deux personnes qui sont descendues de la montagne. La voisine, elle dit c'est la guerrière.
Elle s'en va à toute vitesse, parce qu'elle est... Elle a peur d'en avoir dit trop, la Ana María. On va pas l'embêter non plus.
Donc la voisine a dit que c'était la guérilla.
C'est une petite scène, bien entendu, mais ça dit bien la peur intérieure. La peur intériorisée par, pas seulement par les paysans avec lesquels nous sommes, mais par tous les Colombiens. On est avec aussi le padre Javier Giraldo, qui anime cette communauté de paix. Et il se trouve, j'ai oublié de mentionner hier, c'est pas indifférent, il se trouve qu'il est un ami de Noam Chomsky. Eh oui, il correspond avec Chomsky régulièrement. Vous savez que Chomsky s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Amérique latine. Il n'y a pas que l'Amérique tout court, il y a l'Amérique latine aussi. Et donc voilà, il se trouve qu'il correspond avec lui. Et il va nous parler un petit peu de l'histoire de cette guérilla et l'histoire de ces paramilitaires. Et je l'ai dit, il y a dans cette marche des représentants, des gens, des communautés indigènes. Il y a quand même les Espagnols, en arrivant, n'ont pas tué tout le monde tout à fait. Il en reste quelques-uns qui se sont accrochés aux montagnes et à la jungle. Là, il y a une communauté...
Indienne,
oui.
Ce sont les Embera, c'est le nom de l'ethnie.
Ethnie. Embera.
Embera. Son territoire est de ce côté-là, oui.
Ouais, ouais. Et ils tiennent à venir aujourd'hui, pourquoi?
Parce qu'on a tué plusieurs leaders de la communauté aussi. Et ils cherchent une espèce de protection avec la communauté de paix.
Ils sont persécutés pour les mêmes raisons, quoi. C'est...
Oui.
Si t'es pas avec moi, t'es avec mais l'autre, etc.
Tous les acteurs, même la guérilla a tué quelques Indiens. Oui.
C'est un état de non-droit.
Oui.
C'est ça s'appelle un état de non-droit.
Oui.
Une république bananière.
Exactement. C'est ça.
C'est ici qu'a été inventée la république bananière, non?
Ouais. Hein? Oui.
C'est avec United Fruit. C'était le grand producteur
de bananes qui est en Colombie depuis une centaine d'années. Et au commencement du XXe siècle, ils ont fait un grand massacre près de Santa Marta.
En 1928.
Oui.
Ils ont massacré les ouvriers.
Des bananes.
Et surtout, United Fruit était présent dans tous les États de l'Amérique centrale en faisant et en défaisant les régimes au gré de leurs intérêts.
Oui, on croit que c'est une blague bananière. Non, République bananière, on pense que c'était cette espèce de fantaisie un peu absurde de l'Amérique latine, tu sais, on fait une révolution l'après-midi, puis on en fait une le soir, on en fait une le lendemain, des choses un peu rigolo, une blague. En fait, c'était complètement manipulé par les grandes, les multinationales.
Oui, et la Chiquita, c'est la même United Fruit Company.
Voilà, Chiquita a changé de nom. United Fruit a changé de nom pour devenir Chiquita, parce qu'il y avait trop de sang sur son nom. Et maintenant, Chiquita, qui a été condamné à 25 millions de dollars ici pour avoir fait assassiner des leaders et pour avoir financé les paracos, les paramilitaires, s'est retiré de Colombie officiellement.
Officiellement, oui, mais a laissé des représentants ici.
Voilà. Et maintenant, Chiquita achète les bananes à Banadex, plutôt qu'être présent directement.
Oui, oui.
Comme ça, Chiquita dit, nous ne sommes plus présents en Colombie.
C'est ça, officiellement.
Manger des bananes. Une page de publicité pour les bananes.
Hello, amigo. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad, you can put them in a pie, any way you want to eat them, it's impossible to beat them. But bananas like the climate of the very, very tropical equator, so you should never put bananas in the refrigerator. To have bananas that are fully ripe, you must be absolutely sure to take them home and let them ripen at any temperature.
Oh, sure, sure, sure.
Ah, oui, quand... Vous allez ouvrir le petit pot tout à l'heure pour le bébé, pour donner à manger au bébé, avec de bonnes bananes dans le petit pot. Vous aurez un petit instant d'hésitation, peut-être, peut-être. On continue donc dans cette marche avec les paysans de Saint-Rosé de l'Apartado, cette commune de paix, et qui aujourd'hui, donc, en le disant en commençant, marche vers la ville à la mémoire de ceux des quatre paysans qui ont été assassinés dans le dernier mois. Et on va sur le lieu où ils ont été assassinés, dans le marché, dans un des marchés de la ville d'Apartado. Et chemin faisant, nous parlons avec Javier Giraldo, ce père jésuite, âme de la communauté, qui, lui, a sa version sur l'histoire. Bien sûr, on dit qu'il y a eu la guérilla et il a fallu une contre-guérilla contre la guérilla. Or, ce n'est pas tout à fait sa version. Javier Giraldo.
Dans cette séquence récente de l'histoire de votre pays, la Colombie, on pense qu'il y a une guérilla qui est née et ensuite, pour se défendre contre cette guérilla, des unités d'autodéfense qui se sont constituées. Or, quand on vous lit, on s'aperçoit que c'est l'inverse.
Oui, ce que vous racontez, c'est l'histoire officielle qui est proclamée partout dans le monde, surtout dans les affaires diplomatiques. Et ce n'est pas vrai. Dans le mois de février de l'année 62, est venue une mission de l'armée des États-Unis pour étudier, pas seulement en Colombie, mais dans d'autres pays aussi de l'Amérique latine, étudier ce qu'ils appellent la sécurité nationale. Et on fait des recommandations secrètes de commencer l'entraînement d'une armée civile ou des groupes mixtes avec des militaires et des civils. C'était la stratégie paramilitaire. Pourquoi ? Ils disaient pour attaquer les sympathisants du communisme. C'était le texte concret. Les sympathisants du communisme. Alors, au commencement des années 60, il n'y avait pas de guérilla en Colombie. Et c'est à ce moment-là qu'il commence la stratégie paramilitaire. Pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla, mais pour attaquer une manière de penser, une idée, un mouvement de pensée.
C'est ça. Et, mais on est en 1962, mm-hmm. on est en pleine guerre froide.
Oui, oui.
La lutte contre le communisme est la chose essentielle, principale pour les États-Unis. C'est le ciment, c'est l'énergie, c'est le moteur. Mm-hmm. C'est l'époque du macartisme, etc.
Oui,
donc,
c'est ça.
Il y a aussi cette nécessité pour les États-Unis de dominer son arrière-cour sud-américaine.
Mm-hmm. Oui, et c'est la vraie histoire du paramilitarisme en Colombie. Tout de suite, on a commencé à préparer le paramilitarisme dans l'année 65. Le président de cette époque, le président Valencia, a signé un décret pour autoriser de livrer des armes aux civils. Et puis, on a fondé des structures paramilitaires très connues. On a fait, par exemple, dans les années 70, des expériences de groupes terroristes à l'intérieur de l'armée. Par exemple, la AAA, qui était fondée par les militaires même, pour faire des actions terroristes, pour attaquer les ambassades des pays socialistes, pour torturer des gens des mouvements sociaux, etc. Et puis, dans les années 80, c'est possible de percevoir une alliance entre les paramilitaires et le trafic de la drogue. Les narcotrafiquants se sont liés aux paramilitaires et c'est à ce moment-là où on voit l'augmentation terrible des assassinats politiques, des tortures, des déplacements de gens massifs. La violence, en général, la violence politique a beaucoup augmenté dans les années 80. Et c'est à cause de l'alliance entre les paramilitaires et les affaires de la drogue.
La manif avance, les hommes à cheval, les femmes à pied, avec les longs cheveux noirs magnifiques, elles sont superbes. Hein. C'est les femmes des communautés indigènes. Et on marche entre les bananiers dans la boue, évidemment. Hein. Les grands bananiers avec ces sacs bleus qui sont le signe vraiment de la pollution et les bananiers, le signe, le symbole de l'exploitation même. Même si c'est pas pour ça qu'on marche aujourd'hui, c'est pas contre l'exploitation des multinationales de la banane, c'est pas seulement ça, c'est contre les crimes perpétrés par les organisations paramilitaires, soutenues par les militaires, soutenues par le gouvernement, soutenues par l'actuel président Uribe. Alors si effectivement les opérations de démobilisation peuvent rencontrer quelques succès, beaucoup doutent de ces résultats. Il y a des reconstitutions de ces groupes paramilitaires, de ces unités d'autodéfense paramilitaire, qui changent de nom, qui s'appellent Aguilar Negras, les Aigles Noirs, ou alors Renaissance, etc., qui se reconstituent de toute façon. Et la complicité est évidente. Le courage de cette marche aujourd'hui, le courage de cette manifestation, c'est que les gens avec qui nous sommes sont en terrain hostile, absolument hostile. Pas seulement parce qu'il pleut, il pleut même de plus en plus, mais parce que ici, c'est à domination paramilitaire et qu'ils avancent vraiment sur un terrain hostile. Voilà, on va mettre nos impairs, sinon on ne va pas pouvoir continuer de travailler.
Tiens. Alors, vous voyez, la marche continue et vous dites, d'accord, on parle beaucoup des paramilitaires, mais enfin, et la guérilla. Il faudrait quand même qu'on parle un petit peu de la guérilla et de ces terribles FARC. Javier Giraldo.
Alors, un autre élément dans la région, c'est quand même la guérilla aujourd'hui, depuis ces époques, La guérilla s'est constituée. Mm-hmm. Alors, quelle a été votre attitude vis-à-vis de la guérilla?
Oui, la guérilla était une armée populaire depuis les années 50. Ils savaient beaucoup de liaisons entre les paysans et la guérilla. Beaucoup de familles de ces régions-là avaient des enfants dans la guérilla, etc. Puisque c'était une région très pauvre, la guérilla a eu toujours un discours pour aider les pauvres, pour changer la situation économique, politique, etc. Mais dans les années 80, on a commencé la lutte entre les paramilitaires et la guérilla. Et on a commencé aussi cette espèce de lutte pour le territoire, pour dominer le territoire. Et a commencé aussi le principe de ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et on a commencé à attaquer la population civile aussi.
Est-ce que vous dites en 10 ans, 178 ou 180 d'entre nous ont été tués? Quel est le pourcentage de ceux qui ont été tués par les paramilitaires, par l'armée et par la guérilla?
Une vingtaine de personnes ont été tuées par la guérilla. Et les autres par l'armée et les paramilitaires qui travaillent toujours ensemble.
Armée et paramilitaires sont toujours ensemble, chose. Toujours ici. Ça...
Oui, oui.
Et la guérilla est toujours ici?
Oui, oui, dans la montagne. Il est tout près d'ici. 2 ou 3 heures d'ici.
Est-ce que la guérilla a exercé sur votre communauté les mêmes pressions en disant vous donnez des renseignements aux autres, etc.?
Oui, mais surtout au commencement de la communauté de paix. Et par exemple, la première norme de la communauté a été de ne pas donner des renseignements ni de nourriture, ni vendre d'aliments, d'autres choses, ni appuyer d'une manière logistique l'armée ou tous les groupes armés. Et la guérilla n'a pas accepté cette norme de la communauté. Et quand la communauté n'a pas accepté de les vendre la nourriture, ils ont tué plusieurs leaders de la communauté.
Plusieurs leaders de la communauté.
Oui.
C'était à quelle époque ça?
97.
J'ai l'impression qu'on avance dans un milieu un peu hostile, non?
Oui, oui.
Ça va. Je sens des regards qui ne sont pas tous sympathiques.
Pas tous. ils ont demandé une autorisation de la mairie pour la marche.
Mais vous avez quand même l'autorisation?
Non.
Ah bon?
On n'a pas d'autorisation. C'était une manifestation de résistance. De protestation.
Manifestation de résistance et de protestation. On continue demain. Merci à tous les amis de la communauté de paix de San José de Apartado, à Ron, Vladimir, Jesus Emilio, Javier et Fabio Giraldo, Diego Pérez, Wilson Gavi et Gloria Cuartas. C'était un reportage avec Guy Van Kiel et Antoine Chao. Merci aussi à Laurence Mazur et Maurice Lemoine. A voir la Hasta la Última Piedra de Juan José Lozano, un documentaire qui retrace l'histoire de la communauté de paix de San José de Apartado, où nous sommes. Et puis, très beau film, encore une fois, d'Enrica Colusso. J'ai dit Enrico hier. C'est Enrica Colusso, ABC Columbia, produit par les Films d'ici en 2006. Et vous pouvez réécouter, je l'ai dit en commençant, les reportages sur Mayotte que nous avons présenté les 11, 12 et 16 janvier 2006 sur le drame qui vient d'arriver entre les Comores et Mayotte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Base CJ, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Aveline Carmois. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de La Base CJ, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.